RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Mourad Boudjella, l'éditeur de bande dessinée, Barbara Lefebvre, la prof d'histoire Géo Marty. Le message généraliste. Tiens, vous savez que nous sommes demain à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. D'ailleurs, aujourd'hui, la flamme sera allumée sur le site antique des JO à Olympie en Grèce, en présence notamment de Laure Manoudou, mais aussi de la ministre des Sports que le monde entier nous envie, j'ai nommé Madame Oudéa Castéra, mais aussi de Nikos Aliagas. Nikos, ouais. Bon, il fallait un franco-grec. Donc Demis Roussos malheureusement nous a quittés. Peut-être que Nana Mouskouri n'était pas disponible. Donc on a choisi Nikos Aliagas. Et à cette occasion, on a décidé de vous gâter, chers auditeurs, chers téléspectateurs, en vous offrant 100 places, des places introuvables pour ces JO, mais RMC vous les fait gagner. Alors c'est très simple, vous envoyez le mot Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16, avec ou sans espace entre Paris et 2024. Et vous pourrez gagner alors des places pour la cérémonie d'ouverture, la finale du 100 mètres, c'est pas rien, le judo, le tennis de table, la natation 4x4 nage, et bien plus encore. Donc c'est à vous de jouer. Et tout à l'heure à 11h20, la gagnante ou le gagnant sera en direct avec nous sur RMC et RMC Story dans les grandes gueules. Mes chers GG, pour démarrer cette nouvelle heure passée ensemble, on va regarder ce qui se passe du côté des stations-service. On s'aperçoit ces derniers temps que le prix des carburants est en train de nouveau de flamber. On n'avait pas vu ça depuis octobre 2023, avec parfois un prix de l'essence qui flirte les 2 euros le litre. Alors faut-il faire quelque chose? Mais quoi? Eh bien, l'association 40 millions d'automobilistes a une idée: plafonner ses prix à 1,50 € le litre. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Mes chers grandes gueules, vous allez répondre dans un instant, et vous aussi au 32-16.
RMC, les grandes gueules.
Depuis quelques mois, il y a une grosse hausse. L'essence, je l'ai payé 2,20 € le 98 sans plomb.
C'est inapproprié de mettre des prix comme ça pour le carburant. Donc 1,50 € en plafonné, c'est très bien.
1,50 € comparé à 1,94 € aujourd'hui, ça fait une sacrée économie.
J'ai vu les taxes qu'ils mettent quand même. Ils peuvent penser à nous les salariés.
En l'État donne de l'argent quelque part, il faut qu'il les récupère. Donc ils récupèrent sur la TVA par l'essence et ainsi de suite. Donc c'est utopique.
On nous donne d'une main pour mieux nous reprendre d'une autre. Je ne sais pas si c'est le bon plan.
C'est vrai que depuis octobre 2023, l'essence n'a jamais été aussi chère, presque 2 euros à la pompe. Alors c'est vrai qu'il existe des chèques carburant, ouais, mais ça c'est le problème, c'est qu'il faut, voilà, c'est soumis à certaines conditions. Tous les Français, tous les automobilistes peuvent pas obtenir ce chèque carburant. Est-ce qu'il faut plafonner à 1,50 €? Est-ce que c'est la bonne idée, Jérôme Marty?
Bien sûr que c'est la bonne idée, je vais pas dire le contraire, puisque quand on a fait un débat autour de cette question il y a peu, on avait proposé ça comme solution, c'est-à-dire qu'on avait dit on fixe un prix plafond, et ça peut se faire par l'équivalent de la flat tax en quelque sorte, et on ne dépasse pas ce prix plafond.
Quelle est la différence?
Mais la différence, ceux qui vont voir la différence, c'est les Français d'abord, parce que quand tu payes 2 euros le litre, ce n'est pas la même chose que quand tu payes 1,50 €.
Qui paye la différence? Parce que par exemple, si ceux qui nous vendent le pétrole...
Non, mais il n'y a pas de différence.
Ceux qui nous vendent le baril de pétrole décident d'augmenter ce baril de pétrole,
oui, mais le problème, il n'y a pas de là. L'État, plus ton prix du pétrole monte, plus l'État gagne d'argent, puisqu'il y a un pourcentage au-dessus.
C'est vrai.
Donc à un moment, l'État définit, je ne gagnerai pas au-delà de temps.
Moins de recettes fiscales.
Voilà, mais je ne gagnerai pas, je ne prendrai pas, je ne ponctionnerai pas au-dessus de temps, et donc tu fais un prix plafond.
Donc c'est moins de recettes.
Non, parce qu'en fait, plus l'essence est chère, moins les gens roulent, globalement, quand même. Tu as une restriction, surtout depuis le télétravail, etc., etc. Donc les gens finissent par rester chez eux. Donc tu as quand même, globalement, je suis persuadé que si on regardait, les entrées, elles s'équilibrent à un moment. Mais symboliquement, dans un pays qui est le plus fortement fiscalisé d'Europe ou du monde, si l'État dit « je vais me restreindre, je vais bloquer la hauteur de ce que je fonctionne aux Français », ça aussi, dans la symbolique, dans la relance d'un pays, c'est important. Sinon, on a toujours l'impression qu'on nous fait les poches, quoi.
Donc 1,50 €, quel que soit le prix du baril.
Ou moins, oui. Ça dépend. En fait, c'est le prix hors taxe. Hors taxe, il y en a beaucoup sur le carburant. On peut décider qu'au lieu que les taxes soient en pourcentage, elles soient capées. On peut dire, par exemple, la taxe est 60 centimes d'euros.
C'est ça.
Bon, le litre d'essence sort à 0,80 hors taxe, le litre sort à 1,40. Bon, effectivement, si le litre d'essence sort à 1,50 hors taxe, ben on sera à 2,10. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les taxes sont capées, sont au pourcentage sur l'augmentation du tarif. C'est-à-dire que plus l'essence hors taxe augmente, plus l'État fait des résultats et des bénéfices. En sachant qu'en plus, c'est un impôt indirect, puisqu'une immense majorité des gens, quand ils vont faire le plein, c'est pour aller travailler. Pour aller travailler, pour payer des impôts. Donc c'est un deuxième impôt qu'on impose sur l'impôt. Quelque part, enfin, une majorité, c'est pour aller travailler. On part en vacances, mais bon, tout le monde, quand tu prends ta voiture le matin, Jérôme, c'est pour aller à la clinique. Voilà. Et donc, je trouve effectivement qu'il ne faut pas parler en pourcentage sur les taxes pour le carburant, qui est aujourd'hui quelque chose d'essentiel pour les Français, mais partir.
Donc, c'est une bonne proposition de plafonner.
Et je suis persuadé que si on partait sur le modèle américain et qu'on affichait de partout les prix hors taxes,
producteurs de pétrole,
les États facile. Réaliseraient les impôts indirects qu'ils paient.
Oui, mais les Américains, c'est pas une bonne comparaison, parce qu'il y a des impôts sur le prix de l'essence, mais comme ils produisent eux-mêmes le carburant, forcément, il est moins cher aux États-Unis.
Mais surtout, tu fais le plan aux États-Unis, tu te rends compte que c'est moins cher. Il n'y a pas de limite à la perception de la taxe, on voit clairement que plus le nombre de voitures électriques va être important, plus on va taxer l'électricité.
Ah bah ça,
parce
c'est
qu'on
sûr.
Va te dire, mais voilà, donc.
Il va falloir bien récupérer ses recettes.
Non, mais
part.
C'est justement là, avant de passer à ça, c'est pour ça que peut-être il faudrait que symboliquement, on arrive à prendre cette décision.
Bah, le faire, on fonctionne plus. Est-ce que c'est une bonne idée de plafonner à 1,50€ le litre d'essence?
Oui, Mourad et Jérôme ont déjà expliqué un certain nombre de mécanismes, donc je ne vais pas me relancer. Vous me permettrez de refaire encore un petit regard en arrière. Et une fois encore, on est dans une période charnière. La question de la lourdeur fiscale, la question du poids fiscal qui pèse sur ce qu'on appelle aujourd'hui les classes moyennes et les classes populaires, encore une fois, excusez-moi, ça nous rappelle la période pré-révolutionnaire, c'est-à-dire avant 1789, avec un État où le déficit budgétaire est tel que là, les dirigeants n'arrivent pas à trouver de solution. Alors qu'on leur en montre une à l'époque, c'est la fin des privilèges, etc., pour essayer effectivement de combler les déficits de l'État. Là aussi, on envoie, et toutes les oppositions, quelles qu'elles soient, et le débat public propose à nos dirigeants depuis plusieurs années des solutions pour réduire les déficits. Ils n'écoutent pas. Et nous avons cette pression fiscale qui continue de s'exercer sur les classes populaires et les classes moyennes. En 1789, c'était le prix de la farine, la taxe sur le sel et la farine. Aujourd'hui, c'est la taxe sur l'équivalent de la farine aujourd'hui, c'est-à-dire l'essence. L'essence est aujourd'hui un bien essentiel pour se déplacer pour la majorité des gens. Encore une fois, pour Monsieur Tavares, il s'en fiche quand il fait le plein. C'est pas 2 euros ou 4 euros ou 10 euros. Ça lui pose pas de problème comme à bien des gens pour mettre dans leur SUV. En revanche, pour les classes moyennes, les classes populaires et ceux qui travaillent avec leur utilitaire, c'est un vrai problème. Donc, est-ce que ceux qui nous dirigent ont un peu même de hauteur historique pour comprendre que la situation, elle est pire qu'inflammable?
Ils peuvent agir
sur les taxes qu'ils agissent sur les
et
taxes.
Puis on peut pas avoir comme base l'État gagne plus et les Français gagnent moins.
Oui. Je veux
dire, à un moment, on ne peut pas tout baser. Une politique ne peut pas être basée là-dessus. Pour que l'État gagne plus, il faut que les Français gagnent moins.
Mais parce qu'il y a des gens qui ne sont rien.
Et je rappelle que le chèque de 100 euros qu'ils nous font, c'est de la cavalerie. Parce que sur les 100 euros, ils récupèrent une partie en taxes.
Bien sûr.
Pas un chèque de 100 euros.
Pierre Chasseret est avec nous, celui qui est à l'origine de cette idée, le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Bonjour les GG.
Alors c'est vrai que l'idée avait été évoquée dans les grandes gueules par Jérôme Marty lui-même, plafonné à 1,50€. 1,50€. En fait, c'est un prix psychologique, c'est le prix acceptable.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, Jérôme Marty fait partie de tous ces automobilistes que j'ai pu rencontrer, dont on a fait un micro-trottoir, et à qui on a demandé quel est pour vous le juste prix en fait d'un litre de carburant. Et on va dire qu'à 80%, ce que me disaient les Français à la pompe, c'était 1,50€. Donc, on ne s'est pas cassé la tête trop pour lancer le nom de l'opération et la pétition. On a appelé ça 1,50€.fr, de manière à ce que ça soit très simple pour tout le monde. Et aujourd'hui, cette pétition en ligne, elle est en train de cartonner. Alors, c'est triste, hein. Si elle cartonne, c'est parce que là, j'ai 1,3 million ou 400 000 personnes qui ont répondu. Ça veut dire qu'il y a... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une part des Français aujourd'hui qui est en train d'arbitrer ses déplacements et qui a l'impression de payer une rançon sur le droit de rouler quand ils arrivent à la station-service.
Ah bah voilà. Pourquoi c'est un impôt supplémentaire qu'on a besoin et qu'on a plus besoin de sa voiture pour travailler, commercial par exemple?
Attendez, pourquoi ça repart à la hausse en fait en ce moment?
Alors, pourquoi ça repart à la hausse? Parce qu'on a une légère augmentation du baril. Mais il faut savoir que ce prix du baril, quand on le compare au prix du baril sous Nicolas Sarkozy par exemple, on est en dessous. Donc, et à l'époque de Nicolas Sarkozy, avec le système fiscal, les prix étaient plutôt aux alentours d'un euro 50. C'est pour ça que ce qu'on propose, en fait, c'est très bête, basique, on propose de revenir au système fiscal avant les augmentations de la fiscalité qui ont été pratiquées par le tandem François Hollande-Emmanuel Macron. C'est-à-dire reprendre le système fiscal qui était celui du moment où Sarkozy était au pouvoir. Enfin, je dis Sarkozy, ça pourrait être les autres hommes politiques avant. Et puis faire en sorte que les prix redeviennent acceptables. Parce qu'on parle toujours de la voiture travail. Moi, je veux bien. Mais on peut parler de la voiture plaisir, des relations sociales.
Oui.
Et puis, je vais vous donner un exemple.
Qu'on ne fait pas que travailler dans la vie.
Bah oui, la voiture des grands-parents pour aller chercher les petits-enfants ou les emmener en vacances, ça compte aussi.
C'est un impôt supplémentaire sur le travail, c'est tout.
Je voudrais quand même pointer du doigt quelque chose.
Aller au restaurant.
Alors, évidemment, il y a la consommation, bien sûr, parce que ça, il faut de l'argent qui circule. D'ailleurs, prendre l'argent à la pompe, c'est stupide économiquement. C'est un impôt direct. Pendant ce temps-là, l'argent ne travaille pas. Donc, c'est complètement stupide. Mais on est tous sensibles à la désertification médicale. Les déserts médicaux, on en parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prend sa voiture, qui fait 25 bornes aller, 25 bornes retour, parce qu'il n'a pas de médecin plus proche. Déjà, il a du bol s'il en a un à 25 km. Eh bien, il paye un impôt à hauteur de 60% sur le droit de se déplacer parce qu'il en a en plus, il subit la double peine, il n'a plus de médecin.
C'est les octrois de l'ancien régime.
Et juste une réflexion, les politiques qui ne sont pas choqués par cela sont choqués par les médecins qui prennent quelques honoraires complémentaires. C'est-à-dire, ils te disent, oh là là, vous prenez des honoraires complémentaires, mais c'est une inégalité de fait. Et là, il n'y a pas d'inégalité quand t'es ponctionné autant
que ça. Pardon, mais Pierre Chasseret, vous savez très bien qu'il y a un courant politique qui nous explique depuis plusieurs années qu'il est nécessaire que les prix restent élevés pour pousser les Français à se tourner soit vers l'électrique, soit vers les transports en commun, soit le vélo, etc. Oui, et que si on fait baisser trop le prix de l'essence, eh bien, on ne change pas d'habitude, on ne change pas de modèle. Et la transition écologique, il faut taxer le carbone pour financer la transition. Vous nous proposez finalement de faire l'inverse. Est-ce que c'est pas à contre-courant, en fait?
Ok, bon, alors ce qui est bien, c'est que je suis dans les GG, donc je vais pouvoir dire ce que je pense. Tant qu'on continuera à donner la parole et à écouter une minorité qui est en train, par ses prises de décision, de foutre la France à feu et à sang, on n'en sortira pas. Regardez la différence. Quand on a Greta Thunberg qui arrive en France, on la met à la une du journal. À Amsterdam, elle a été arrêtée, coffrée, mise en garde à vue. C'est-à-dire qu'objectivement, nous, quelqu'un qui se couche au milieu de l'autoroute ou sur une route en disant « Oui, mais le projet, c'est de la désobéissance civile. Oui, je dégonfle des pneus le week-end. »
Ne contracte pas.
Parce que j'ai rien à foutre de ma vie. Eh bien, tous ces gens-là, aujourd'hui, qui pourrissent la vie des Français et qui sont minoritaires persuadés que la fin du monde, c'est pour après-demain, aujourd'hui, ils sont en train de tuer l'économie du pays.
Excusez-moi, monsieur Chasseret, je suis d'accord pour abaisser les taxes, mais enfin, faut pas non plus maintenant nous expliquer que la production automobile et que les voitures ne participent pas, dans une certaine mesure, au réchauffement climatique.
Non,
il y a peut-être des limites, quand même.
Il faut pas confondre deux choses. Il y a.
Vous êtes climato-sceptique, monsieur Chasseret?
Attendez. Il y a l'automobiliste et l'automobile. Deux choses différentes. L'automobile, elle est vendue par des constructeurs automobiles qui doivent faire des efforts sur les normes, etc., etc. L'automobiliste, il a acheté quelque chose, il a fait un crédit, il a besoin de son véhicule, il n'a pas acheté de la drogue sous le manteau. Donc lui, il faut le laisser tranquille. Il a besoin de circuler, il a besoin d'accéder, d'emmener son gamin au ping-pong le mercredi, d'aller à l'hôpital, d'emmener ses petits-enfants à l'école, et j'en passe. Et tous ces déplacements de loisirs sont taxés à 60%.
Non mais j'ai bien compris. Non mais sauf que votre discours à un moment donné devient un peu extrême dans la mesure où vous accusez les militants écologistes qui veulent juste faire des actions pour éveiller les consciences à la question de la nécessité de la transition écologique.
Non, ils font des délits.
D'accord, mais enfin, je suis pas en train de vous parler des Greta Thunberg et compagnie. Je vous parle d'écologistes qui réfléchissent avec d'ailleurs les constructeurs automobiles et avec la plupart de ceux qui nous dirigent pour essayer quand même d'aller vers une transition écologique. Apparemment, ça a pas l'air de
vous poser problème. Par contre, moi, je vais vous dire quelque chose. Je lance une pétition en ligne parce que quand vous avez deux écolos de 15 ans qui vont au Louvre pour jeter de la purée sur la Joconde,
c'est deux crétins de 15 ans.
On leur fait.
Déjà, ils vont au musée, c'est bien.
On leur dit, c'est pas bien. Moi, si demain, je peux vous dire, et d'ailleurs, et franchement, je finirai en tôle, mais ça serait d'ailleurs totalement justifié. Si demain, pour dénoncer l'augmentation des carburants, on se met à jeter de la purée sur la Joconde, à votre avis, combien de temps je reste en liberté? Je termine à Fresnes, et tant mieux.
Oh, arrêtez un peu.
Non, mais monsieur Chassé,
vous serez relâché comme les autres.
On va rappeler à Barbara surtout que quand on achète une voiture, on est déjà taxé sur la pollution avec le malus. Puis on nous colle une vignette critère. Oui, et puis ensuite, on nous prend des impôts, on nous taxe aussi sur l'essence. Et on n'arrête pas de
payer. Sur l'assurance, sur les excès de vitesse, sur le stationnement. Sur,
voilà, on a,
sur l'entretien, on peut y aller. Hein.
Et puis voilà. si l'on pense que une fois que la transition sera faite, on ne va pas taxer l'électricité très largement en hauteur de l'essence, je veux dire, c'est
donc, la question n'est pas celle-là, justement.
La question, c'est la fiscalité.
C'est ce que j'essaie de dire d'ailleurs depuis le début de l'émission. La question, c'est la fiscalité. Et le fait d'avoir des dirigeants qui sont sourds à la problématique fiscale et qui ne comprennent pas.
T'es d'accord qu'il faut décarboner.
Mais bien sûr, mais il faut le faire de façon juste. Et le problème aujourd'hui, c'est que la fiscalité dans ce pays, elle est profondément injuste, elle est profondément inégalitaire. Que ce soit Tavares, que ce soit les taxes sur le carburant, on a des dirigeants qui sont aveugles à l'injustice fiscale. Donc le problème, c'est l'injustice fiscale. C'est pas faut-il ou pas une transition écologique. Bien sûr qu'il en faut une, mais il faut arrêter avec l'injustice fiscale.
Et
que l'injustice fiscale s'appuie sur la transition écologique.
Laissez-la terminer parce que ça va être.
Oui, mais elle fait que terminer depuis tout à l'heure.
Que l'injustice fiscale, elle repose sur la négation de la nécessité d'une transition écologique, moi, ça me pose problème. Et on peut faire les deux, je suis désolée.
Je remercie monsieur Chasseret. Ce qui nous explique, c'est qu'on essaie de nous vendre de la morale à la fiscalité en nous disant oui, vous êtes surtaxés, mais c'est pour sauver la planète. Voilà, c'est des conneries absolues. Vous êtes surtaxés, c'est tout. Ils ne sont pas là pour sauver la planète, mais ils ont trouvé une raison morale qui leur permet de nous surtaxer.
Non, mais je ne parlais pas de l'État qui, effectivement, trouve avec l'automobile. Le bon payeur. Je parle de ceux qui disent aujourd'hui, si on veut changer de modèle, il faut à un moment donné que les Français comprennent que rouler avec un véhicule essence, ça doit coûter plus cher que rouler avec un véhicule propre.
Pourquoi forcément par l'argent? Pourquoi forcément pas?
Et oui, voilà.
Parce que tu dissuades par l'argent. C'est très bien, ça marche toujours comme ça. Merci Pierre Chasseret. Merci pour cette proposition. On va la soumettre au 32-16 maintenant.
Mais
êtes-vous d'accord?
Électrique qui soit
performant. Faut-il plafonner le prix à 1,50€, le litre d'essence, bien sûr. Marc est avec nous au 32-16 dans un instant. On continue la discussion sur RMC et RMC Story.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Jérôme Marty, Barbara Lefebvre et Mourad Boudjelal. On est sur cette proposition de l'association 40 millions d'automobilistes. Faut-il plafonner le prix du carburant à 1,50€? C'est ce qu'elle propose parce qu'effectivement, depuis plusieurs semaines, on s'aperçoit que de nouveau, les prix à la pompe flambent. On n'est pas loin des 2€. Alors, il y a toujours des explications techniques, mais il y a surtout le fait que c'est un produit qui est surtaxé. Et d'ailleurs, et c'est ce que dénonçait Jérôme Marty, c'est assez immoral ou
grâce
amoral.
Grâce à Jérôme Marty,
c'est jamais dit immoral ou amoral.
Immoral.
De savoir que l'État, finalement, plus l'essence augmente, plus l'État gagne de l'argent sur le dos de l'automobiliste via les différentes taxes.
Pendant les présidentielles, des candidats ont proposé de retirer les taxes sur les carburants. Je le rappelle quand même.
Évidemment,
à ce moment-là, tout le monde disait « Arrêtez, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. »
Je vais signer la pétition.
Éric est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Montélimar dans la Drôme. Bonjour Éric.
Oui, bonjour les gars.
Bienvenue dans les grandes gueules. Est-ce que plafonner l'essence et fixer ce plafond à 1,50€ le litre, est-ce une bonne idée?
Alors, est-ce une bonne idée? Oui, mais j'y crois pas du tout, parce que l'État a besoin d'argent, donc la TVA, là, elle rentre directement tous les jours. Voilà. Oui. Les autoroutes sont pleines, donc tous les week-ends, nous, on est sur la vallée du Rhône, donc c'est plein à craquer tous les week-ends. Donc je me dis, finalement, c'est pas si cher que ça. Et puis, il y a un an, quand il y a eu l'augmentation, tout le monde gueulait. Il y a eu la grève en plein milieu, on n'arrivait plus, pénurie d'essence, mais les gens disaient « Oh, l'essentiel, même si on paye 2€, l'essentiel, ça doit en avoir. » Donc, pourquoi l'État va plafonner le prix de l'essence, puisqu'ils font bien comme ils veulent, quoi.
Il faut rappeler quand même que les taxes sur le carburant, c'est 60% du prix au litre. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si en prenant un litre à 2€, s'il n'y avait pas de taxe, aucune taxe, il serait vendu à 0 à 80 centimes.
Ah oui.
Il serait vendu à 80 centimes.
Et le plafond d'imposition pour un particulier, c'est combien ?
55.
Voilà. Vous ne trouvez pas ça scandaleux ? Que l'essence soit taxée à 60% et que le plafond d'imposition maximal pour une personne, ça soit 55.
Oui, après, tous les pays taxent leur carburant. Hein.
Oui,
en Allemagne, en Italie, même si parfois il y a un peu moins de taxes, et d'ailleurs souvent on va faire le plan en Belgique ou en Espagne où c'est un peu moins taxé, le prix est un peu plus bas, mais ces prix-là sont taxés.
Oui, mais nous,
c'est une façon de faire rentrer de l'argent.
Oui, mais en France, c'est toujours plus que
plus. Toujours un peu plus.
Il n'y a pas de raison que les carburants ne soient pas taxés. Mais sur un prix qui est aussi fluctuant, il n'y a pas de raison qu'il y ait une telle changement de taxe par le pourcentage. On doit avoir une taxe fixe. Il n'y a pas de raison que l'État gagne de l'argent quand le prix du pétrole augmente. Il n'y a pas de raison.
Mais qui a décidé cela, comme ça nous a été rappelé tout à l'heure, c'est Monsieur Macron, ministre de l'économie, qui est ensuite devenu président de la République. Donc ça fait quand même 10 ans.
De surtaxer l'essence.
Non, de bloquer cette question de la taxe et de faire en sorte que la taxe, elle augmente en même temps que le prix. Excusez-moi, c'était pas comme ça avant.
Marc
pour
est
le prix
avec
de l'électricité,
nous.
Etc.
Donc, Marc est avec nous. Bonjour Marc.
Qui est responsable?
Eric. Merci Eric. Bonjour Marc, bienvenue dans les grandes gueules.
Elle n'aime pas Macron.
J'avais remarqué qu'elle n'aime pas Macron.
Non.
Vous nous appelez du nord de la France. Est-ce que c'est une bonne idée de fixer un plafond pour le prix des carburants ?
Bah évidemment, c'est une bonne idée. L'État prenait déjà 60%, donc quand le prix de l'essence était à 1 euro, l'État prenait 60 centimes. Aujourd'hui, il prend 1,20€. À mon avis, ça fait beaucoup plus que l'inflation qui s'est passée.
Oui,
donc, même déjà 1,50€, l'État prendrait 90 centimes. Donc, c'est 50% de plus, beaucoup plus que l'inflation. Et puis, après, ça me fait doucement sourire les véhicules électriques. Mais aujourd'hui, moi, je suis artisan. J'ai acheté un petit Kangoo pour mon activité. Et un Kangoo électrique, ça vaut 10 000€ de plus que la version diesel.
Et pour faire Paris-Marseille,
on
met 3 jours.
En ce moment, les véhicules électriques se vendent moins bien.
Bah, ils sont hyper chers.
Notamment parce qu'on a supprimé les bonus concernant les véhicules chinois. Bah, ouais. Parce qu'en plus, l'État, enfin notre argent finançait la Chine, en gros. Hein, parce
qu'avec
de l'argent public, on finançait la production industrielle chinoise. Alors là, quand même, Bruno Le Maire s'est dit, tiens, ça serait quand même bien que ce soit réservé à la France.
L'électricité a augmenté.
Aujourd'hui, l'électricité, elle n'est pas très taxée, mais demain, je pense que.
Elle le sera, oui.
Elle va l'être, et donc le rouler à l'électrique, ça va être encore de plus en plus cher. Quand on voit les factures d'électricité qu'on a déjà à la maison qui augmentent de manière
astronomique. Oui, c'est surtout ça, hein, parce qu'elle augmente quand même.
Au niveau des bornes, quand on fait le calcul, c'est pas si intéressant que ça par rapport à l'essence. Ça fait gagner que quelques euros pour faire un plein, et on est obligé de s'arrêter 3 fois pour descendre dans le sud. Donc c'est pas très logique, mais le sujet principal, c'était quand même la hausse des taxes, c'est ce que l'État engrange. Et quand on nous parle de super profits et de taxer des super profits dans des sociétés, qu'est-ce qui fait aujourd'hui des super profits sur le prix de l'essence ? Bah c'est bien l'État. C'est bien l'État qui a passé de 60 centimes à 1,20€ aujourd'hui, quand avec l'essence à 2€. Donc ils ont fait une culbute de 100% de bénéfices. Donc c'est bien eux qui font des super profits.
Et pourtant, il n'y a plus un rond dans les caisses.
Ouais, mais ça, c'est un autre problème.
Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font avec tout ce pognon,
ça. Oui, mais là, pardon, mais c'est pas au moment où le gouvernement se casse la tête à trouver des économies et à raboter partout. Là, on apprend.
Y compris chez les apprentis.
Ouais, ils veulent même taxer les livres d'occasion maintenant.
Ils ont enlevé les primes pour l'apprentissage.
Les primes pour l'apprentissage.
C'est une économie quand on gagne de l'argent.
C'est pas à ce moment-là qu'ils vont réduire les taxes sur l'essence.
Quand on gagne de l'argent, on connaît les commises un petit peu d'argent sur l'essence, sur le nombre de pleins qu'on fait par an en tant qu'artisan. C'est aussi de l'argent qu'on peut dépenser pour aller au restaurant, c'est de l'argent qu'on peut dépenser pour faire autre chose et qui ramène aussi
des taxes. On a des gens qui pensent tableau Excel. Donc évidemment, si vous pensez je fais la colonne en moins et cette colonne en plus, si vous n'avez pas une vision, excusez-moi, l'économie, il y a toutes sortes de courants économiques, mais un gouvernement, ce qu'on attend de lui, c'est une vision économique. Si la vision économique est claire, les actions économiques derrière, elles sont claires. Là, on n'a pas de vision.
On augmente les taxes et deux, on fait quelques chèques à quelques personnes qui s'en sortent pas à cause des taxes.
C'est du gouvernement à la petite semaine.
La réalité, c'est qu'on est dans une merde énorme. Moi, je vous le dis, on est vraiment pas bien, quoi. Je veux dire, on a une note qui va être dégradée. On a besoin de lever à minima 300 milliards, peut-être 400. Et je sais pas qui c'est qui va nous la prêter, parce que moi, personnellement, je lui prêterais pas à l'État français si je les avais les 300 milliards. Et que je sais pas comment l'État français va s'en sortir. On est dans un climat économiquement qui est très anxiogène en ce moment. Oui. Voilà, je vous le dis, on va pas bien.
Mais là,
je rajouterai. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien contre Bruno Le Maire. J'ai quand même une confiance assez limitée dans ses capacités à nous faire.
Mais c'est pas Bruno Le Maire qui décide. Hein.
Bruno Le Maire, il ne
c'est
fait
Macron et
Colère
qui décident. Alors c'est pas Bruno Le Maire.
Mais là, on est dans une véritable merde. Et vous allez le sentir dans les, peut-être, on va peut-être avoir droit à un grand emprunt d'État, c'est possible.
Ah bah alors là.
Mais ça sera compliqué parce que les taux actuellement sont très hauts et donc l'emprunt d'État, il faudra qu'il soit avec des taux très hauts, sinon il sera pas du tout attractif. Ça peut aller jusqu'à taper l'épargne. Ils ne répondent pas. À un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Des solutions, ils n'en ont pas. Si on ne peut pas lever 300 milliards ou 400 milliards, on est très mal.
Vous avez entendu ce que dit Emmanuel Macron. Il dit que ce n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes.
Oui, bien sûr.
Donc, en gros, je ne reverrai pas le montant des dépenses publiques, mais en revanche, je vais chercher de nouvelles recettes.
Alors, on va exporter comme des malades.
Pour l'instant, la ligne, c'est pas d'augmentation d'impôts, donc on va aller chercher l'argent ailleurs, un peu sur les chômeurs, avec l'assurance chômage,
un peu sur les apprentis.
Sur les livres d'occasion, les apprentis, les franchises médicales, un peu sur... Voilà, un peu partout. Et donc, ça va créer du mécontentement partout. Et vous allez voir, il y aura des manifs en septembre, surtout si il touche l'assurance chômage. Après les JO, les verres
Moi, je serais pour qu'elles soient avant les JO, les manifs. Avant les JO, les manifs, ce serait mieux.
Mais ce qui est terrible, c'est que c'est pas ça, des recettes.
Ça sera en septembre.
Les recettes, c'est des produits qui n'étaient pas prévisibles. C'est des ventes supplémentaires. Alors, ça peut être de l'exportation. Ça peut être réadapter notre modèle économique pour qu'on soit plus concurrentiel dans un marché mondial. Mais les recettes, c'est pas aller taper des petites gens et des petits sous à des petits gens. C'est pas des recettes, c'est du racket, ça.
C'est des gens qui savent faire taper les classes moyennes. Ça a toujours été comme ça.
Marie est avec nous. Bonjour, Marie.
Parce qu'ils obéissent, ils payent les impôts.
J'ai un copain qui a ouvert un restaurant, il m'a demandé est-ce que tu crois que l'État va moins me taxer que la mafia en Italie parce qu'il
Comment on peut faire taire Barbara?
Non, dis donc.
Oh là là.
C'est Mourad qui parle sur le micro.
En laissant parler Marie, par exemple.
Avec plaisir, Marie.
Bonjour, Marie.
Marie, on va essayer de vous écouter, mais avec Barbara et Mourad, c'est pas facile. Marie, bonjour, vous êtes infirmière du côté de Rouen, en Seine-Maritime, et vous vivez à la campagne?
Oui, je vis à la campagne. Donc, je suis à une trentaine de kilomètres. Mmh. Et donc, on est de classe moyenne avec mon mari. Donc, on a fait le choix pour suivre, de soigner nos enfants avec de multiples rendez-vous, j'arrête de travailler. Et en fait, ma fille a 4 rendez-vous par semaine. L'année dernière, j'avais aussi mon fils avec 2 rendez-vous par semaine. Sauf que j'ai tout à une trentaine de kilomètres, l'aller et retour. Donc, ça me fait quand même une 60-70 kilomètres à chaque fois, tous les jours.
Un plein par semaine.
Comment?
Vous faites quoi, un plein par semaine?
Oui, facilement. Si j'ai aussi leurs activités sportives, donc c'est pareil. Et si je veux voir un peu ma famille, ça devient compliqué.
Donc obligation d'avoir une voiture et obligation de faire au moins un plein par semaine. Vous avez constaté que les prix augmentaient à la pompe?
Je suis passé de 70 à 100 euros.
Ah oui, dernièrement.
Ça augmente tout doucement, mais sûrement.
Mais sûrement. Est-ce que vous aviez bénéficié, parce qu'il fut un moment où on était encore dans le quoi qu'il en coûte, et on a donné des chèques, de l'argent, est-ce que vous avez bénéficié?
Non, on est classe moyenne, donc non, rien du tout. Non,
puis Marie, elle a la chance d'être infirmière, et les infirmières, elles ont quand même gagné 25 centimes d'euros en 12 ans.
Mais moi, je travaille plus, je suis en arrêt, j'ai pas le chômage, j'ai rien du tout.
Non, non, mais je rappelle que les infirmières ont gagné juste 25 centimes d'euros en 12 ans sur les indemnités kilométriques, quoi. Et pour les médecins, ça n'a pas été revalorisé depuis 30 ans.
Les revenus n'augmentent pas, mais tout augmente. Hein. Les mutuelles, pour faire rembourser, ont augmenté. Quand vous avez fait le sujet, justement, je n'ai pas pu intervenir, mais c'est pareil. Mon fils s'est fait opérer, dépassement d'honoraires, 1500 euros. C'est pour moi.
Et oui.
Donc plus l'essence, ça se termine plus. Alors, je fais quoi? Je ne vois plus ma famille, je ne leur fais plus de sport, je ne suis plus mes enfants.
Doit-on taxer la mobilité, déjà?
Je fais comment pour aller chercher du pain? C'est 10 km.
Eh oui. Oui, mais c'est la double peine pour ceux qui vivent loin des transports en commun.
Et après, on veut lutter contre la métropolisation.
J'ai rien.
Comment on fait?
Il n'y a pas de bus, il n'y a rien.
À part pour le collège, ils auront un transport en commun, enfin, un car qui passe pour le collège. Mais après, même pour aller à l'école primaire, je suis à l'extérieur du village, donc j'ai 2 km. Mais c'est de la route nationale, il n'y a pas de trottoir, je ne peux pas y aller à pied. Je suis obligé de prendre ma voiture avec mes enfants.
Donc le plafonnement de l'essence à 1,50€, ça serait une bonne idée?
Je ne sais pas, on nous prend de partout. Mais je pense que ce serait bien. Parce que
oui, parce que le risque, c'est que le gouvernement dise bah, d'accord, mais dans ce cas-là, on va inventer d'autres taxes et là, pour récupérer l'argent.
Ils ont,
une capacité créative.
On n'a aucun doute là-dessus. Aucun doute sur leur capacité à augmenter les taxes.
Merci Marie, bon courage à vous. Merci pour ce témoignage. La question était posée sur notre compte X, le compte X des Grandes Gueules. Faut-il plafonner le prix à 1,50 €? Je parle bien sûr du carburant. Voilà. Et c'est oui, très largement, à plus de 86%. Dans un instant,
ils sont en dessous d'un euro 50.
Donc ce ne sera pas fait. Trop cher. Donc ce ne sera pas fait. Quand 86% des Français sont d'accord, ce ne sera pas fait.
Dans un instant, le GG7 et match. On va parler des européennes. Vous avez vu, il y a un petit phénomène à gauche. C'est la percée de Raphaël Glucksmann qui est en train de prendre le leadership sur les autres candidats de gauche. Ouais. Et peut-être certains rêvent, en tout cas au sein de cette liste, de dépasser la liste macroniste. Glucksmann va-t-il sauver, ressusciter la gauche? Oui ou non? Il y aura match dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h30, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. On va jouer, c'est le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Alors, la campagne pour les élections européennes, je ne sais pas si elle vous passionne, en tout cas elle a démarré, on est censé voter le 9 juin prochain, et lorsqu'on regarde les sondages, il y a un petit phénomène qui est en train d'émerger, c'est la percée du candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann. Tous les sondages le confirment, il est en train de prendre le leadership à gauche, il est en train de distancer notamment la candidate écologiste Marie Toussaint, mais aussi Manon Aubry pour les Insoumis, à tel point que certains politologues estiment que la liste Glucksmann pourrait dépasser celle de Valérie Ayé, la liste macroniste, sachant qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui très impopulaire, il y aura sans doute un rejet Macron lors de ces élections, qui pourrait profiter aussi Raphaël Glucksmann. En gros, il récupère les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui le trouve trop excessif. Il récupère peut-être un électorat écologiste qui trouve que Marie Toussaint est moins charismatique que Yannick Jadot. Et puis, il récupère également le centre-gauche qui avait voté Macron en 2017, en 2022. Bref, est-ce que Glucksmann va ressusciter la gauche? C'est la question qu'on vous pose en ce match et qu'on va poser aussi à Mourad et Jérôme qui, eux, disent oui. Oui, vous y croyez, Glucksmann. Et Barbara, qui est plus réticente et qui dit non, Glucksmann ne va pas ressusciter la gauche. Oui. Barbara, tu as 60 secondes.
Oh, ben, il m'en faut bien 60 pour dire tout ça. Donc oui, en effet, ce n'est pas tant que je ne crois pas que M. Glucksmann fera un beau score. Je pense qu'il fera un beau score. Personnellement, tout beau score qui peut permettre à LFI d'avoir zéro siège me convient très bien. Donc, s'il pouvait éviter à LFI le moindre début de succès, ça ne me dérangerait pas. Europe Écologie Les Verts, hélas, ont effectivement une candidate un petit peu fade. Et on ne parle même pas de la Macronie, je ne sais. Comment s'appelle-t-elle déjà?
Valérie Ayé.
Ah oui, c'est ça, Valérie Ayé. Donc, évidemment, pour M. Glucksmann, la route est toute ouverte pour un succès. Néanmoins, va-t-il réussir à ressusciter la gauche? Mais ressusciter quoi? Il va nous ressusciter François Hollande et Jean-Marc Ayrault, ah, super.
Oui, des morts vivants.
Les morts vivants, c'est ça. Donc bonjour la gauche qui veut nous ressusciter, c'est-à-dire celle qui n'a rien su faire et qui, grâce à M. Macron en plus, s'est retrouvée en position
donc
de faire n'importe
lui,
quoi.
Il n'y a personne.
Il n'y a personne derrière lui. Et en plus, M. Glucksmann fait partie des girouettes. Je rappelle qu'il était pour la NUP. D'accord.
Il trouvait
l'accord avec la Mélenchonie formidable quand il s'agissait d'aider ses petits copains à avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Maintenant, il est content, il va avoir beaucoup de sièges au Parlement, mais enfin tout ça, c'est encore les girouettes idéologiques et pousse-toi de là que je m'y mette. Excusez-moi, ça s'appelle pas ressusciter la gauche.
Alors pourquoi Mourad et Jérôme, vous y croyez à cette percée Glucksmann qui pourrait ressusciter la gauche? Mourad?
Le côté girouette.
Micro.
Le côté girouette, on peut lui reprocher comme à tous les hommes politiques. Oui. On n'est pas qui s'en fait une girouette.
Pas
ça
toujours.
Va.
Pas dans.
On a beaucoup d'éoliennes.
Il y en a qui ont de la cohérence.
Non.
Elle
non.
peut ne pas te plaire, mais.
Oui, il y en a qui ont de la cohérence dans l'horreur. Je suis d'accord.
Par exemple, François-Xavier Bellamy, il est cohérent, il a pas de girouette.
C'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.
Il est surtout inodore, incolore.
Il n'est pas inodore, incolore.
Vas-y, Glucksmann. Pourquoi tu y crois, Glucksmann?
Alors moi, j'y crois parce que on peut débattre de ses idées, du fond et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, une partie de l'élection se passe sur la personne et sur ce qu'il véhicule. Et je trouve que Glucksmann, aujourd'hui, il véhicule une espèce de renouveau pour la gauche, enfin la gauche modérée, qui va faire un gros score aux élections européennes. J'espère qu'il utilisera mieux que le gros score de Yannick Jadot qui pensait pouvoir surfer dessus pour partir à la présidentielle. Mais surtout, dans les alliances pour les présidentielles qui vont se présenter, c'est sûr qu'un parti socialiste qui aura fait 14, 15, 16 ou 17% avec Glucksmann, ça pèsera plus que les 1,2% de notre ami Anne Hidalgo à la présidentielle par rapport à la NUPES. Donc ça va permettre de créer un axe à gauche plus fort.
Ça permettra à la gauche modérée de reprendre
le grand pari des présidentielles où au centre du jeu, il y a toujours le Rassemblement National, il faut le reconnaître, et toutes les stratégies aujourd'hui se font par rapport au Rassemblement National. Oui. Je pense que la stratégie est bonne et nouvelle, à savoir de se dire que l'électorat de gauche, de très à gauche, il est acquis, et Glucksmann a une problématique, c'est aller récupérer une partie de l'électorat Macron qui est parti au Rassemblement National parce qu'ils ont été déçus. Et je pense que Glucksmann peut récupérer une partie de cet électorat à gauche parce que c'est un homme nouveau dans le paysage politique. Il a un discours, moi j'ai écouté son débat avec Bellamy, alors il est de confession juive, enfin d'origine, et il a un discours sur le conflit au Proche-Orient que je trouve remarquable, qui est très équilibré, très bien partagé, avec dans lequel je m'identifie totalement, avec une reconnaissance totale des attentats du 7 octobre, de l'existence d'Israël, de la problématique d'Israël, mais aussi à côté une reconnaissance totale des erreurs qui sont réalisées. Je suis un peu plus mitigé sur ses positions sur l'économie de guerre, mais quand on connaît son histoire, bon, on comprend un petit peu les avis très tranchés qu'il a vis-à-vis de l'URSS. Moi, je trouve que c'est un vrai renouveau dans le personnage. J'ai envie de dire, c'est le Macron de gauche. Dans l'histoire, non mais...
Ah bah tu l'as flingué là.
Non, non, mais pas le Macron en termes de résultats.
Jusque-là,
mais
jusque-là, ça allait.
Laissez-moi terminer et je vais redevenir bon.
Il a un petit côté macroniste aussi, je suis d'accord.
En termes d'apparition dans le paysage politique. En termes d'apparition, et Macron, ça a été une apparition dans le paysage politique.
Il vient pas du PS.
Après, on a vu que pour que Macron pourrait être élu, il a fallu un sacré concours de circonstances.
Il y était déjà la dernière fois et ça marchait pas, là ça marche. Moi je pense que c'est surtout une histoire de balancier qui est en train de revenir. La bulle macroniste est en train d'exploser exactement comme à l'époque la bulle LR et la bulle PS avaient explosé. On pourrait dire que les grandes équipes ne meurent jamais, en fait. C'est-à-dire que le PS est en train de se recréer, est en train de repousser. Et en face.
Il n'est pas PS.
Non, il n'est pas PS.
Oui, mais c'est ça change tout.
Vous avez, il n'est pas PS, mais
il a même voulu la mort du PS à une époque.
Avec la rose dedans. Hein,
c'est, oui, mais enfin, je pense que les gens votent aussi Glucksmann parce qu'il n'est pas PS.
Et face à ça, tu auras sans doute une émergence aussi des LR qui vont revenir. Les partis républicains vont revenir. Ce qu'a su amener, malheureusement, le macronisme, qui en fait. On avait En Marche, ensuite il y a eu Renaissance, qui n'existe pas, qui sont des partis à adhésion gratuite, il n'y a pas vraiment de parti, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Ils ont pris comme ça des membres de certains partis. On a un gouvernement qui est constitué de traîtres à leur parti, qui sont allés là. Et effectivement, tu vas avoir des gens qui vont revenir à leur maison d'origine progressivement parce que ces partis-là ont une histoire et que le macronisme n'a su que créer un RN qui est en passe de pouvoir prendre le pays. Et face à ça, on a besoin de partis républicains structurés qui reviennent. Et donc, Glucksmann est en train de donner le là à ce mouvement, et je pense que ça va continuer avec les républicains.
Et si je peux rajouter un mot, Barbara, je pense qu'il y aura un ticket Glucksmann-Ruffin qui remplacera Mélenchon. Et ce ticket-là, tu peux concurrencer.
Restons sur les européennes. Attends, Rémi est avec nous au 32-16. On a peu de temps, donc on va écouter Rémi au 32-16. Bonjour, Rémi.
Bonjour.
Bonjour, tu es agriculteur du côté de la Bretagne, Ille-et-Vilaine.
Tout à fait. Et du coup, par rapport à votre débat, bah moi, je suis pas un électeur de gauche. Je suis plus à droite. Mais par contre, si on parle de Glucksmann, je pense qu'aux européennes, il peut dépasser Madame Hague.
Il va.
Je pense. Parce que, mais par contre, je me projette pas sur 2027, parce que j'entends là qu'avec Monsieur Ruffin et tout ça,
oui, bah
et
là,
2027, c'est trop loin.
C'est
trop loin, 2027. On est en 2024. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est comme on annonce, tout le monde annonce Marine Le Pen au pouvoir. C'est pas dit. Mais, donc voilà. Mais par contre, là, pour 2027, eh ben, je pense qu'il peut battre Madame Hayet, parce que pour moi, c'est elle, son adversaire. Et il peut la battre parce que justement, elle n'existe pas. Moi, j'ai regardé un débat de elle, mais elle n'existe pas. Elle se fait totalement marcher dessus. Et elle n'a pas de réponse. Elle cite sa feuille. et elle a rien. Et elle est pas, elle a pas de couleur, elle a oui, pas ouais, de. Là, elle
là, en fait, en gros, ce que vous dites, Rémi, c'est que Glucksmann profite aussi de la faiblesse de la candidate macroniste, peut-être. Mais pardon, mais excusez-moi, je vais un peu calmer les ardeurs. Mais Raphaël Glucksmann, c'est quand même la gauche France Inter.
C'est-à-dire sortie
de Paris.
Bah, et c'est la gauche Saint-Germain-des-Prés. Hein,
personne ne me parle de Raphaël Glucksmann. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'existe que dans un certain milieu.
Non seulement il n'existe que dans un certain milieu, mais d'abord, premièrement,
Macron, c'était
Raphaël
pareil, hein.
Glucksmann. Raphaël Glucksmann, en 2024, il est dans un autre contexte par rapport aux européennes. Parce que sur ce point, il a une cohérence, c'est que sur l'Ukraine, il a toujours, depuis que le conflit en Ukraine a éclaté, il est cohérent.
On est d'accord ou pas, mais il est cohérent.
Son discours de 2019, c'était ça. Là, on va dire, entre guillemets, il est aidé par le contexte de la guerre, la guerre en Ukraine, sur laquelle il a un discours cohérent. Voilà. Cohérent et même assez aventurier. Oui. Donc ça, ça peut plaire aux gens. Oui. D'accord? Deuxièmement, sur la question de son positionnement sur le conflit entre le Hamas et Israël, il s'est démarqué de l'islamo-gauchisme et de l'antisémitisme de Mélenchon, qui va de mal en pis, puisque c'est même de pire en pire. Maintenant, ils sont carrément même à célébrer l'Iran. Donc, ces gens-là sont sur une autre planète. Donc là aussi, ils tirent les marrons du feu. Et en effet, il y a une candidate macroniste catastrophique et une candidate écolo qu'on ne reconnaît pas. Donc là, il a un contexte favorable. Est-ce qu'un contexte favorable électoral qui va durer
jusqu'au 9 juin,
c'est la résurrection de la gauche. Non, parce que vous verrez,
il y a une présence, il y a un charisme.
Je termine, car vous verrez qu'en 2027, comme la gauche sait si bien le faire, vous aurez 5 candidats. Vous aurez écolo, PS numéro 1, Olivier Faure, PS numéro 2, F-A-U-R-E. Les anciens, LFI et PCF, et puis ils finiront à 1%.
Mais ce n'est pas exclu qu'il y ait 5 candidats à gauche, bien sûr.
Voilà, donc,
mais Glucksmann, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il a une présence. C'est un néolibéral de gauche, quelque part, avec une certaine morale, et qui peut séduire les électeurs, parce que c'est une personnalité nouvelle.
La question était posée.
Et je trouve qu'il a plutôt du charisme.
Le match est terminé.
C'est dire que c'est la gauche France Inter et que la province serait exclue de ce truc-là. Oui. Il y a une assise forte du PS dans les régions, dans les départements, etc. Il y a une assise forte au niveau des maires.
Quelqu'un connaît Carole Delga, personne.
Et lui, s'il incarne le truc, il peut très bien faire justement beaucoup de voix en province.
Top. C'est terminé le match.
Déjà?
Glucksmann peut-il ressusciter la gauche? C'était la question. Ouais. Qui a gagné le match? Barbara qui dit non ou Jérôme et Mourad qui disent oui? On va voir le résultat, ça peut être serré. Ah bah non, c'est non à 86%.
On s'est fait. Écoute, on est le PSG de ce soir.
Je suis persuadé que ça serait serré, tiens.
Ah, c'est vachement serré, ouais.
Ah, c'est très drôle, 86%. Mais c'est pas encore gagné pour Glucksmann.
Si Glucksmann est élu président de la République un jour, qu'il se souvienne qu'il avait deux défenseurs, grande gueule, qui ont dégusté, qu'on a fait plein la gueule. Voilà,
c'est ça.
Dans un instant, on va revenir sur la hausse inquiétante de la mortalité routière constatée le mois dernier. Faut-il revenir sur la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.